RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardy. Vous venez de suivre sur RMC la victoire 2-0 de l'AS Saint-Etienne face à Monaco, doublé de Wahbi Khazri qui a marqué sur les deux premiers tirs cadrés des Verts ce soir. On vous attend pour faire l'évaluation d'ailleurs de ce Saint-Etienne-Monaco. Il y aura les infos du jour. On reviendra également sur l'un des résultats de cette soirée. Ça s'est passé en Allemagne. Le Bayern s'est incliné 2-0 face au Hertha Berlin. On sera avec David Lortolari dans quelques instants. Tiens, juste avant de continuer et de dérouler sur ce match, avec Mohamed, notamment supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16, juste vous dire que le jeu le plus attendu de l'année sort aujourd'hui. Et qui vous l'offre ? Eh bien, c'est l'After.
C'est Bibi.
FIFA de 19 pour vous et sur la console de votre choix. En plus, c'est pas beau ça ? RMC vous en offre un toutes les 5 minutes ce soir dans l'After pour jouer et gagner votre
jamais
FIFA à 19. Envoyez FIFA au 7-32-16. FIFA au 7-32-16. Bonne chance.
EA Sports, it's in a game.
Eh, ça me rappelle toute mon enfance. Hein.
On peut parler de Saint-Etienne aussi quand même un peu.
Bah vas-y alors, attends, on finit avec Mohamed. Mohamed qui est toujours avec nous, supporter de Monaco. Toujours là Mohamed ?
Oui, toujours là.
Bon, t'as toujours pas changé d'avis. Tu veux dégager Jardim, toi.
Ah, oui, enfin, je veux dégager Jardim parce qu'on peut pas dégager 11 joueurs, donc c'est beaucoup plus facile de dégager un homme que 11.
Bah non, mais avant de vouloir dégager des joueurs, attends que ceux qui sont pas là reviennent, quoi.
Ça serait tellement, c'est tellement injuste, je trouve, Mohamed, t'es tellement injuste.
Non, d'accord, je suis peut-être injuste, mais dis-moi les joueurs qui manquent aujourd'hui. Il manque qui ? Il manque Ronny Lopez et José Pitch. Oui, et qui d'autre ?
C'est déjà énorme.
Ces deux joueurs,
il te manque les mecs qui marquent peut-être pas ce soir, tu vois. Enfin, avec tout, avec les occasions que t'as, par exemple.
Oui,
non, mais c'est même pas le mec qui marque ce soir. Il manque le mec qui peut créer, les deux mecs qui peuvent vraiment créer du jeu.
Jovetic a déjà joué et il a pas été excellent. Le seul qui vraiment me manque, moi, personnellement, c'est Ronny Lopez. Jovetic a énormément été blessé aussi.
Mais Jovetic, c'est quand même mieux que ce que t'as. On peut parler de ce qu'on veut. Offensivement, Monaco, ça tient la route. Là, on le voit encore ce soir, même en ayant un milieu de terrain hyper défensif avec le petit Pellet là qui était devant la charnière pour les protéger. Il y avait un espace béant au milieu où Falcao était dans un espèce de no man's land à 70 mètres du but. Ils ont quand même réussi à avoir des contre-attaques, la percée de Sidibé, tout ça. Ils arriveront toujours offensivement. Là où c'est hyper inquiétant, c'est défensivement.
Attends.
Défensivement.
Attends, Ludo, là, sur ce que tu dis là. Ils arriveront toujours offensivement. Il y a aussi le fait que Saint-Etienne a très très mal défendu ce soir. Très très mal défendu. Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus parce que les occasions, sur les 4 grosses occasions qu'ils ont, il y en a 3, c'est cadeau.
Je te parle pas forcément du match de ce soir, je te parle sur le... Quand tu vois la capacité offensive, tu te dis qu'à un moment donné, il y aura des gens qui reviendront, des états de forme qui vont revenir. Offensivement, ça colle. Il y a des joueurs, Ronny Lopez, Jovetic, Golovin, à un moment donné, tout ça, ça va coller. Moi, c'est défensivement, solution t'as pour améliorer la défensivement ? Il faut que les autres, ils se reprennent.
Mohamed, qu'est-ce que tu allais dire ?
Oui, en fait, je dirais que c'est là où on voit aussi la limite de notre recrutement. C'est qu'on a recruté un peu tout et n'importe quoi, si je peux me permettre.
C'est pas très
et dans les postes. C'est surtout dans les postes clés en défense. Aujourd'hui, on se retrouve avec Glick, Jemerson, Radji, Bareka et Henrich, qui est en fait le couteau suisse. Ce qui fait qu'on est pour 5 joueurs pour 4 postes. Jemerson et Glick n'ont pas de concurrents, ils ont juste Endoram. Jemerson est au bout du rouleau, Glick ne retrouve pas son niveau. Et c'est là où on voit que le recrutement n'a pas été assez intelligent en ne recrutant pas quelqu'un. Ou ne serait-ce qu'au milieu, recruter quelqu'un comme un Fabinho ou comme un Bakayoko à l'époque qui va empêcher
Mohamed, je pense que, alors, derrière, pour moi, cet hiver, c'est impératif qu'il recrute un défenseur central. C'est impératif.
Oui.
Après, je pense qu'au milieu de terrain, bon, alors, vous avez fait beaucoup de quantité à défaut de faire beaucoup de qualité, mais je pense que parmi tous les joueurs qu'il y a, Bennacer, Alaou, Pelé,
Diop,
t'as de quoi construire un milieu de terrain cohérent, mais pour l'instant, c'est pas évident parce que les joueurs sont à peu près tous au même niveau, c'est-à-dire un niveau pas terrible, mais je suis sûr que Jardim va finir par trouver.
Si je peux me permettre avant de juste pour finir, c'est aussi le schéma tactique. Est-ce que le 4-2-3-1 est ce qui va le mieux ? On voit que Falcao seul n'y arrive pas. Non, il n'y a pas de centre qui arrive. Donc...
Bah, c'est vrai. Alors, cela dit, Mohamed, on peut pas lui reprocher de pas avoir tenté des
il
trucs.
Il a tenté quelque chose ce soir.
Voilà, ce soir, il tente quelque chose, même défensivement.
Mais parce qu'il est mené au score de zéro et qu'il est un peu dos au mur. Il tente parce qu'il est dos au mur. Et on voit que chaque journée, le schéma tactique est toujours le même, 4-2-3-1, mais les joueurs changent. Il n'y a pas de stabilité. C'est là aussi. Après, les blessures n'aident pas. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est là aussi le problème. C'est qu'il n'y a pas de stabilité. On voit que les joueurs, il n'y a pas d'automatisme. Avec le temps, peut-être, sauf que l'AS Monaco n'a pas le temps. Ce n'est pas Saint-Etienne, ce n'est pas Bordeaux, ce n'est pas Rennes.
Ça risque d'être compliqué, là, pour le podium. Mais après,
même pour
les gens, on joue la descente.
La chance de réussir un recrutement, de trouver les bons mecs au bon moment, de faire du business. Et peut-être qu'à un moment donné, t'as le droit de te tromper aussi. Projet s'essouffle. Et que, comme Gilbert y dit, c'est pas jackpot, messieurs, dames, tous les mercato. T'as le droit aussi de te tromper et puis essayer de te réorganiser.
Totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais là, je pense qu'ils ont été trop loin dans leur démarche de supermarché. Ils ont vendu trop de joueurs clés sur les deux dernières saisons.
Ils en payent les conséquences.
Et pourquoi ça marchait avant? Ça marchait avant parce que t'avais toujours une colonne vertébrale qui était cohérente.
Après, moi, je continue de vous dire, on en a déjà parlé ici, mais Monaco, leur grande force, c'était l'anticipation de ces ventes-là aussi. Et ils ont perdu un mec qui, mine deux, était très important, qui est Luis Campos, qui d'ailleurs, alors l'année dernière, à Lille, tout le monde disait, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est vrai qu'alors la cohabitation avec Bielsa, c'était une catastrophe. Mais ce que Lille est en train de réussir, que ce soit au niveau financier, au niveau du recrutement et du flair à ce niveau-là, on est en train de le voir aussi. Et je pense que ça, c'est peut-être une perte aussi qui fait du mal.
Sur les doigts dessus quand il est à cause de la
Mohamed, merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Nicolas, je voudrais juste passer un petit coucou à ma femme qui m'écoute.
Donc je voudrais dire comment elle s'appelle ta femme, voilà. Mohamed.
Comment
elle s'appelle ton épouse?
Mon épouse s'appelle Salima.
Salima.
Et si je pouvais aussi avoir un petit cadeau, je ne dirais pas.
Tu veux le ballon de la Ligue 1 ou pas, mon gars?
Oui, je prends le ballon de la Ligue 1.
Eh ben, nouveau ballon de la Ligue 1. Ou un t-shirt de l'After. Qu'est-ce que tu préfères? Les nouveaux t-shirts de l'After?
J'ai déjà des t-shirts de l'After. J'en ai déjà avec un petit ballon. Je veux dire entre, je peux prendre les deux. Le t-shirt de l'After et le ballon pour moi.
Pourquoi tu regardes pas l'After avec ta femme, justement?
On regarde l'After avec ma femme.
Mais tu dis pourquoi tu fais un petit coucou? Elle est pas avec toi?
Exactement.
Bah c'est une preuve d'amour. Attends, il a raison. Il va dire, elle va dire, bravo.
Non, j'allais lui demander si elle était chez le voisin.
Il pétait un petit jeu FIFA, là, non?
Non, faut envoyer FIFA au 7-32-16 pour gagner FIFA.
Déjà, Mohamed, il est sympa, mais il a réclamé ça.
On vous rappelle, ce soir, à la fin, il y a un jeu FIFA 19 à gagner toutes les 5 minutes, hein. Donc, t'envoies FIFA au 7-32-16, je peux rien faire.
On va envoyer.
Bon, vas-y, Mohamed, bonne soirée, ne raccroche pas, du coup. Merci d'avoir été avec nous. Salut.
Merci.
Ciao, Mohamed. On accueille John, supporter des Verts, l'un des vainqueurs de ce soir. John, homme heureux, supporter heureux, Saint-Etienne est deuxième ce soir, on le rappelle, victoire 2-0 face à Monaco. Salut John.
Messieurs, bonsoir à tous.
John.
Bonsoir
les auditeurs.
Ça va très bien après un match pareil.
T'es heureux BA ou heureux réaliste?
Ah ben très bien, ben voilà. Les gars, c'est pas une question.
Réponds à ma question, John. Je t'ai dit, est-ce que t'es un heureux BA ou un heureux réaliste?
Un heureux BA et réaliste. On a enfin du retour, un retour au jeu à Saint-Etienne. Ne soyez pas trop exigeants avec les Verts. Je vous écoute. Saint-Etienne ronronne, Cabella lâche pas le ballon, un ballon sur sa
tête. L'auditeur.
Messieurs, dames, regardez enfin la réalité des choses. On a un retour du jeu à Saint-Etienne. On a un retour de l'esprit d'équipe. On a un Dionine qui se bat, un Cabella qui se bat. Chacun se bat pour l'erreur de l'autre.
Cabella, il se bat?
Cabella, il a 90 ballons touchés, 82% de passes réussies.
Il n'est pas décisif
ce soir, mais il est là dans la construction, il se replie défensivement.
Il a fait combien de replis défensifs dans le match?
Ah ben écoute, je sais pas si on a regardé le même match, mais un coup il était numéro 10, un coup il se replie lorsque Diony était trop monté. Je vous assure, ne soyez pas trop indulgents avec les Verts. Vous regardez trop les matchs du PSG, messieurs. Je sais pas.
John, je vais pas. C'est vrai que tout à l'heure, c'est quelqu'un qui nous a appelé, un autre supporter des Verts, qui nous a dit qu'il s'était pas régalé. Il y a énormément de réactions sur le direct studio. Je dis Stéphane par exemple, qui dit qu'en gros, on n'a pas vu le même match où ils se sont pas régalés. Et beaucoup de supporters des Verts d'ailleurs disent, dans le contenu, c'était pas génial. Après, t'as le droit de pas être d'accord.
John, on peut aller dans ton sens.
Oui.
On peut aller dans ton sens parce que finalement. En n'étant pas, il y a du mieux du côté de Saint-Etienne, c'est une certitude. Il commence à y avoir des choses qui prennent. Après, là où c'est encourageant, c'est que ce soir tu dois être toujours troisième, peut-être ou deuxième.
Oui.
T'es deuxième. Tu m'écoutes, ça fait 15 fois que
t'es deuxième ce soir, mais je t'écoute.
Avec un calendrier qui était quand même un petit peu.
T'es deuxième ce soir en étant perfectible sur certains points. Donc ça, c'est très encourageant pour la suite.
Le calendrier était très clément aussi.
Ça, c'est encourageant.
Ouais, après, c'était difficile de gagner à Toulouse. Là, on reçoit Monaco, qui est dans une période aussi difficile. Fallait se méfier de Monaco.
Bah, en fait, notre jugement vis-à-vis de Saint-Etienne, il est par rapport à ton classement actuel et par rapport aussi à ton recrutement, donc qui a été plutôt réussi du côté de Saint-Etienne. Donc, on s'attend forcément à être un peu plus...
plus généralement, Ludo.
On va monter en puissance, messieurs. Voilà, Cabella s'est blessé cet été.
Tiens, on va écouter Jean-Louis Gasset en direct en ce moment même. Victoire 2-0 des Verts.
Ah, Gasset, le dieu. Le dieu Gasset.
En première mi-temps, on a maîtrisé le match, même si Monaco, de temps en temps, a eu des occasions. On avait décidé de jouer, de pas fermer le match. Donc ça a donné un match un peu fou, où il y a eu des occasions de part et d'autre. C'est comme ça qu'on aime le football. En plus, malgré les occasions de Monaco, on a pris 0 but. Ruffier a encore été phénoménal. Tout va bien.
Allez, Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse. On rappelle que Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à l'ASM.
Il y a 7 jours de ça, on était 14e, on avait pris 4-0 à Paris. Tout le monde s'alarmait. J'avais demandé du temps. Je savais que quand les joueurs majeurs retrouveraient leur niveau et leur forme physique, ça irait beaucoup mieux. Là, en 7 jours, on a pris 9 points et on s'est remis en haut du classement. C'est très bien.
Voilà, la réaction de Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse. Jean-Louis Gasset, vainqueur de l'AS Monaco ce soir, 2-0. John, t'es toujours
la
là.
La montée en puissance des Verts, laissez-nous du temps. On a un Wahbi Khazri qui revient de Coupe du Monde, un Cabella qui a été blessé, un Diony qui retrouve la confiance, un Selnes qui est techniquement de plus en plus qui retrouve sa technique. C'est impressionnant. Un Subotic qui retrouve un peu de forme. Un Ruffier exceptionnel, décisif à chaque match.
En fait, tu nous écoutes pas, en fait.
Ouais, en fait, c'est l'auditeur déjà qui a parlé tout à l'heure que ça ronronnait, déjà pour commencer. Nous, on est dans l'analyse pure, donc
du match.
On va pas commencer à dire que Saint-Etienne a fait un grand match ce soir.
Parce que
Saint-Etienne est en progression, c'est une certitude, mais il y a encore. Est-ce que le jeu offensif, il est pas perfectible, Stéphanois?
Si, tout à fait. Si.
Le jeu sur les côtés, les relations.
Sur les côtés,
perfectible.
Ce qui est le plus perfectible, la défense, c'est le système défensif dans son ensemble. C'est-à-dire le bloc défensif à la perte de la balle dans les phases de transition adverse. Tu dois faire mieux. Il faut mieux s'organiser parce que là, si Monaco a pas la tête dans le seau, si Monaco est un petit peu plus en confiance, je suis pas sûr que tu gagnes le match, hein.
Mais en étant deuxième, du coup, ça te donne
le temps, ça te donne de la confiance, ça te donne
des possibilités pour Saint-Etienne qui devient vraiment très intéressant.
Et en plus, ils ont un effectif, je pense qu'ils ont sur le banc, ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont assez intéressants.
John, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, merci. Une petite dédicace pour Foufa qui m'écoute, Charlie avec qui on a regardé le match, et voilà, tous ceux qui me reconnaissent de Clermont. Voilà. Allez les Verts. Allez,
merci. Salut, John. Bonne soirée. À bientôt.
Bonne soirée.
Clermont, John. Ciao. Tiens, je donne une petite info également sur Saint-Etienne. Vous l'avez certainement vu passer, notamment sur le site rmcsport.fr. Saint-Etienne qui a démenti les informations évoquant un rachat par un investisseur émirati. Alors, l'équipe avait sorti une info comme quoi une offre de 55 millions d'euros serait parvenue, mais que les dirigeants des Verts en voudraient au moins 20 millions de plus. Communiqué de presse cet après-midi de l'AS Saint-Etienne, le club n'est pas à vendre et aucun contact n'existe avec des repreneurs crédibles. Voilà ce qui a été expliqué dans le communiqué de presse.
Ça commence à devenir cher de reprendre des clubs en France.
Sur l'AS Saint-Etienne. Mais,
attends, 55 millions pour Saint-Etienne. C'est pas cher payé, hein. Quand tu regardes le capital joueur, quand tu regardes le capital en termes de marque et d'image du club, je trouve que c'est pas beaucoup.
On va se faire l'évaluation de Saint-Etienne Monaco. On va accueillir Cédric, supporter de l'ASM, pour le faire avec nous. Salut Cédric.
Bonjour messieurs.
Salut.
Alors Cédric, je crois que t'es colère ce soir, toi.
Bah moi je suis colère, oui. Déjà, je suis dans le même état que le terrain de Monaco. Je suis un peu retourné. Parce que quand je vois les joueurs jouer, c'est l'abattement qui me fait peur, surtout. Parce que quand on voit les buts.
Non, il est en Normandie, je crois.
Ouais, je suis en Normandie, moi.
Ok.
Je suis normand, mais voilà, je suis supporter de Monaco depuis plus de 30 ans. Infidèle. Et donc, ouais, un petit peu abattu par le comportement des joueurs. Les remplaçants qui rentrent, comme Golovin, je les trouve nonchalants. Il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Je l'ai trouvé nonchalant après. Peut-être que
attends, il a essayé. Il a été brouillon, mais il a essayé.
Oui, mais
tu vois, il a été même un peu trop combatif.
Voilà, c'est ça. Moi, je le trouve pas assez combatif. Et puis la question,
je
me pose
il a été justement combatif et peut-être un petit peu trop agressif.
Ah non, moi je trouve pas. Moi après, voilà, c'est le parce que j'ai regardé à la télé. C'est le ressenti que j'ai eu. Et puis après, ce que je voulais savoir aussi par rapport à vous, la question que je voulais vous poser, c'est Aïd Bennacer. Pourquoi il est pas convoqué? Il était dans les 19 joueurs partis à Saint-Etienne, mais il était pas sur la feuille de match. Moi je l'ai vu jouer à Caen. Et sincèrement, si Caen s'est maintenu l'année dernière, je pense qu'il a pris une année d'expérience. Il a joué 6. Il a même joué libéraux des fois quand il fallait sauver l'équipe. Et là, il joue pas. C'est la question que je me pose.
Parce que t'as raison, dans l'immédiat, il serait très utile. Il l'a été déjà sur les matchs qu'on a pu voir. Même contre l'Atlético en Ligue des Champions, je l'avais trouvé plutôt cohérent, plutôt bon. Donc ouais, c'est vrai qu'il manque dans l'entrejeu, parce que finalement, oui, le vrai problème, il est au milieu de terrain.
Parce que quand tu regardes tous les joueurs qui a toutes les possibilités qui ont au milieu de terrain, alors c'est vrai que c'est quand même un gap de qualité inférieur par rapport à ce que tu avais l'année dernière, mais pour moi, Bennacer, ça devrait être un des joueurs qui devrait être titulaire.
Voilà, moi aussi, ça c'est mon avis.
Il l'a plutôt été ces dernières semaines.
Bah, sur un match important comme ce soir, tu vois, je suis quand même surpris qu'ils soient en tribune.
Ouais, moi aussi, ouais.
Cédric.
Oui, il y a Pelé qui a joué son premier match au milieu, mais on voit que le problème au milieu de terrain, parce qu'il y avait quasiment toujours 30 mètres entre Pelé et le joueur qui était au milieu devant, il y avait Falcao qui
il a joué quasiment,
il y avait 30 mètres entre le Pelé puis après le milieu offensif.
Bah, je pense qu'il s'est un peu fait dessus, il a joué vraiment beaucoup.
Alors, soit c'est les consignes du coach, soit ils sentent qu'ils sont tellement fragiles dans l'axe, qu'à un moment donné, avec Jonathan, en première mi-temps, on se demandait même s'il jouait pas à 5, tellement il était reculé au niveau de la défense
centrale. Ouais, c'est ça, exactement.
Et du coup, si ton 6, si ta première sentinelle, elle est collée au centre, possibilité de relancer, c'est
alors, les gars, on va se faire les vals de ce, Saint-Etienne Monaco. Alors, Cador. Je pense que c'est facile ce soir.
Ah, bah oui.
Cazerie.
On est d'accord, Cédric.
Ah, bah, il n'y a pas photo.
Au choix.
Ah ouais, il n'y a pas photo. Cazerie, oui, sans problème.
On est d'accord pour Cazerie. Qui est le pied carré de ce soir, messieurs, de ce Saint-Etienne Monaco?
Ah bah, on est obligé de...
Falcao.
Ouais.
Ah ouais, là, franchement, ce qu'il fout, c'est incroyable.
C'est inimaginable.
Je peux pas mettre Falcao en pied carré.
On est obligé ce soir. Non mais c'est sur ce soir.
Il a pas l'excuse du terrain, là.
Non, ok, pas pied carré. On peut le mettre en boulet.
Ah.
Il y a pas de
parce que moi j'ai adoré le match de Diony, mais il en rate deux belles.
C'est ce que me dit Jérôme Thomas. Il a raison, c'est vrai que Diony pourrait presque. Oui, mais il gagne 2-0.
Son match est top à Diony.
Bah voilà, j'ai bien
aimé.
Mais c'est vrai qu'il en rate deux.
Falcao, on est obligé.
Falcao.
Ouais, Falcao parce que.
Enfin, c'est pas beau.
Ouais, je sais.
Ouais, mais t'as pas vraiment le choix là.
J'ai un peu honte.
Qui est le taulier de ce match?
Selnes.
Moi, je mettrais Ruffier, moi, du coup.
Non, moi je mettrais.
C'est un taulier de cette équipe.
Il faut mettre Ruffier parce que le match qu'il fait,
tu mettrais qui, toi?
Le 6, notre frère français 6 de Saint-Etienne, là, qui était très bon.
Mbila, tu le vois pas beaucoup, mais
c'est ça, moi je pense que Mbila soit Selnes. Et il a été énorme. Il est propre.
Les 3, on peut pas mettre les 3?
Non.
Pourquoi tu me regardes sévèrement en me disant non comme ça?
Putain, mais il est relou, lui. Parce que c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. Qui est le Casper de ce match?
Casper,
il y en a tellement.
Moi, je vais être sévère, mais par rapport à ce qu'il pourrait nous apporter, moi, je dirais Sidy B. Il a débordé, mais je l'ai trouvé.
Arrête pour le débordement, tu peux pas le mettre Casper.
Sidy B aussi.
Moi, je dirais Salibur, j'attends plus de lui. Vraiment. J'attends vraiment plus de Yannis Salibur.
Ouais, Salibur, c'est pas mal. T'en penses quoi, Cédric?
Bah, Salibur, moi, je l'ai trouvé percutant quand même. Après, il a pas. Mais j'ai trouvé percutant.
Il a fait une action dans le match.
Franchement, on a peur, je sais pas qui mettre là.
Sidibé, il fait une action dans le match.
Toutes les semaines,
mais en même temps, tant qu'il ne travaille pas.
C'est un champion du monde. Et on l'a vu une seule fois dans le match, Sidibé.
Ouais, moi je suis d'accord.
Enfin, il revient de blessure et tout.
Bah, Casper quand même.
Tu le mets toi, Ludo?
Moi je le mets pas, il revient de blessure.
Toi t'as envie de mettre Glick.
Vous êtes trop indulgent.
Non, je mets pas Glick, t'es fou, c'est mon.
Ah non, non,
tu rigoles ou quoi?
C'est comme si moi je mettais Sakai, tu vois.
Non, Glick, c'est impossible.
Non, mais c'est la même racaille.
Toi t'as le droit à toi, c'est
surtout qu'en plus
tu sais quoi, je vais mettre le petit là parce que j'ai pas aimé son comportement là quand il est sorti. Il a été fantomatique et en plus il y a
pas voilà, tu l'as dit toi même, fantomatique, c'est le concept
au coin.
Allez,
on récapitule l'évaluation. Cador, Wahbi Khazri, auteur du doublé, les deux buts de cette victoire de Saint-Etienne à Monaco 2-0, le pied carré Falcao, voilà, c'est Ludo Bragnac qui a tranché. Le taulier c'est Ruffier et on s'est battu pour pas mettre Glick parce que Ludo Bragnac voulait absolument, et du coup on mettra Auré. C'est bon pour toi ou pas?
Ouais, c'est pas mal.
C'est bon pour toi, Cédric?
Oui, heureusement que vous avez pas mis Glick, j'aurais crié au scandale.
Voilà, c'est pour ça, non, on peut pas. Merci okay. en tout cas, Cédric.
Salut, salut, Ludo ne veut pas prendre du service, il nous faut un peu d'expérience. Ludo veut pas prendre un peu de service.
Où ça?
À Monaco. À Monaco.
Ah, il est en courant, le mec.
Je crois pas que je sois dans les plans, dans le plan commercial de
l'Est. Appelle, appelle,
appelle. Ça serait bien. Je me dépêche.
Il y a une super galerie de meubles. Il y a une vie nocturne qui est
incroyable. C'est pas intéressant au niveau fiscal pour eux.
Bah si, toi tu pourrais toi.
Bah non,
ah,
parce que c'est...
Bah t'enlèves ton passeport français.
Ah bah...
Ah ouais, tu deviens polonais tout court. Ah,
c'est génial.
Et là t'es bon.
Hein. Tu nous rasses,
tu sais que c'est là-bas.
Et si tu veux un agent, Ludo, je suis là, y'a pas de soucis.
Comme Monaco était en Ligue 2.
C'est-à-dire, raconte.
Bah, je rentrais de sélection, j'ai eu un rendez-vous avec l'AS Monaco quand ils étaient en Ligue 2 et qu'ils cherchaient des joueurs un peu cadres pour pouvoir remonter rapidement. J'ai eu un rendez-vous, sauf qu'ils pensaient que j'étais international polonais, donc quand on a commencé à parler chiffres, tout était en net. Et ils ont pas compris qu'en fait j'étais la nationalité française primée sur la nationalité polonaise. Ouais. Et donc il y a eu un espèce de blanc, voilà, et il a été évoqué, ou du moins ils ont évoqué l'idée peut-être de renoncer à ma nationalité française pour prendre la nationalité polonaise.
Le jour où Bragnac a failli signer à Monaco, il n'y est pas allé pour une histoire de fric. C'est même pas pour le projet de
monsieur, c'est parce
qu'il vient de vous le dire.
Mais non, c'est parce qu'il n'a pas, mais non, c'est parce qu'il n'a pas voulu renoncer à la nationalité française. La France,
oui,
monsieur.
Voilà. Bravo.
Tu vois? Bravo Ludovic, Marseillaise.
Voilà. Voilà. Il est taré. Salut Cédric, bonne soirée à toi.
Et je veux bien un petit ballon aussi les gars pour mon fils.
Ah mais les mecs sont malades hein.
Et ah, non, reste un, me dit Jean.
Nouvelle règle.
Si,
les auditeurs qui demandent, on leur donne pas.
Et bah, tu sais quoi? Cédric a demandé, il en aura un, c'est pas toi qui commande.
C'est
cadeau Cédric, ça nous fait plaisir.
C'est qui le patron?
Mais ouais, mon gars, c'est lui qui a dit. Allez, merci, oui. Salut Cédric. Dans quelques instants, les infos du jour. En attendant les autres affiches de Ligue 1 à partir de demain, on vous attend
on donne le bac à tout
sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio au 32-16. Rien que ça, avec Ludo Bragnac et Jonathan.
Avec des gagnants, la peine de perdre, c'est ce qui fait.
Bientôt.
Tout à fait.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardy, vous venez de vivre la victoire de l'AS Saint-Etienne 2-0 face à l'AS Monaco, première affiche de la 8e journée de Ligue 1. On va se projeter déjà sur les autres affiches qui nous attendent demain, mais avant on va aller écouter Leonardo Jardini en direct du côté de Saint-Etienne.
Besoin de faire plus attention, plus de concentration sur cette situation. Mais sincèrement, moi je regarde le dernier match. Je n'ai pas aimé, je vais vous parler, manquer d'attitude. L'équipe a démontré attitude, bon comportement, engagement. Je pense statiquement, nous on s'est nous réussis avec le changement à passer en ligne de 3 à plus de nos couloirs. C'est des bien gros matchs à droite. Après à gauche, Barek aussi, il a joué bien. Chadley, il est entré. C'est un joueur habitué à jouer ce système-là. Et okay, tout pour dire que normalement, nos matchs à l'extérieur, tu as 6 opportunités, tu fais 2-3 buts. Et c'est la réalité du foot. Mais en ce moment, c'est un moment difficile. Et peut-être les autres joueurs manquent un peu de confiance. Tu arrives à 6 opportunités, c'est un peu ressemble un peu les matchs de Reims, de Nîmes à la maison, qui nous ratait au numéro de situations. Nous avons besoin de rester plus efficace pour donner plus de vérité à notre qualité de jeu.
Voilà la réaction de Leonardo Jardine, défait ce soir 2-0 à Saint-Etienne. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des jeux FIFA toutes les 5 minutes, des jeux FIFA 2019, des jeux FIFA 19 d'ailleurs. Toutes les 5 minutes dans l'after, vous envoyez FIFA au 7-32-16, voyez FIFA 7-32-16, le jeu le plus attendu de l'année qui sort aujourd'hui. Autre entraîneur portugais qui est, lui, en grande difficulté, c'est Miguel Cardoso. Demain, il y a Lyon-Nantes. Et Miguel Cardoso était aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match et il a demandé du respect, l'entraîneur des Nantais.
Les matchs, s'il vous plaît. Vous avez quelques questions sur les matchs? Je pouvais vous donner beaucoup des exemples des équipes qui sont des moments forts, faibles, qui sont dans la merde. Ils sont capables d'avoir la capacité d'être intègre, intégral, ensemble et réussi. C'est de ça que j'ai parlé avec mon président. C'est pour ça que je ne veux pas quelques bordels ici, quelques questions, quelques polémiques, parce qu'on va le faire. On va le faire ensemble. Ça, c'est l'esprit du groupe.
Voilà, Miguel Cardozo qui a expliqué qu'il voulait donc du respect. Il y a une nouvelle question d'un journaliste en fin de conférence de presse qui lui a demandé de qui il parlait lorsqu'il demandait du respect. Et là, Miguel Cardozo s'est levé et il est parti.
Mon ami.
Ok, merci beaucoup.
Voilà, ça a été... Ouais, une fin de conférence de presse un petit peu tendue également. Il va jouer très gros. Alors, je pense qu'il va même pas jouer très gros demain, Miguel Cardozo. Le sort, il est très certainement déjà scellé pour lui.
C'est réglé.
Ouais.
C'est pas Willy Sagnol qui prend le... J'écoutais la...
On parle surtout de Veil du côté...
Non, mais je rigole parce que j'ai écouté l'émission de Willy Sagnol et... faut, les auditeurs téléchargez-le en podcast, comprendrez de quoi je veux parler. Non, écoute, franchement, moi je comprends pas pourquoi. Je comprends, alors les résultats sont pas bons, y a pas de souci, ça gagne pas. Mais dans le contenu, tu vois, on parlait de Monaco qui est une équipe qui est malade et où on se dit bah il y a quand même des joueurs qui vont revenir. Jardim a déjà prouvé par le passé, mais dans le contenu, je suis désolé, Nantes c'est moins alarmant que Monaco pour ma part. Quand tu prends cet entraîneur à l'été, que tu nous sors les violons en nous disant que tu le prends pour construire un projet de jeu, que tu veux vraiment t'investir avec lui sur la durée, que c'est un entraîneur qui a des idées, qu'il va lui falloir du temps, et que tu penses déjà à le débarquer au bout de 8 journées, enfin 7-8 journées, je trouve ça vraiment, mais quelle est la cohérence, quelle est la stratégie de club? Je veux bien que Kita soit caractériel et une tendance à se servir de ces entraîneurs comme des essuie-tout. Mais là, je sais pas, quand tu regardes le contenu des matchs, moi j'ai envie qu'il reste. J'ai envie qu'il reste parce que il y a quand même quelque chose, il y a des signes qui laissent penser que eh ben il suffirait peut-être d'un petit peu plus de réussite, il suffirait peut-être d'un petit peu plus juste d'un petit peu plus de réussite et de confiance pour que cette équipe se mette à gagner tout en proposant du beau jeu à la Beaujoire. Donc pour moi, écoute, quitte à va le virer, ça semble acté, grand bien lui fasse, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, je trouve ça très injuste pour lui.
Ludo.
Je sais pas, il faut essayer. Bon là, on analyse. J'ai de la compassion pour cet entraîneur là qui va se faire couper la tête ou qui l'a déjà à l'heure actuelle. Donc, je sais pas si c'est fait ou pas. En tout cas, on peut avoir que de la compassion. Il est là, il essaye de faire son métier tranquillement. On lui pose que, on lui rabâche ça en conférence de presse pendant 10 minutes. Et encore, je trouve qu'il est, il garde son calme. Après. Quand on connaît un peu Valdemar Quitta et l'histoire du FC Nantes, on peut peut-être pousser un petit plus loin l'analyse en se disant, finalement, Quitta était à la manœuvre de ce club-là au départ. Et il s'en est suivi ce qui s'est passé, il a été beaucoup critiqué, beaucoup attaqué, il s'est passé beaucoup de choses avec les supporters. À un moment donné, il s'est mis en retrait. Faut pas oublier que Nantes, c'est une entreprise familiale. Est-ce que c'est pas Franck Quitta qui, à un moment donné, a pris les rênes du projet nantais avec le père qui chapeaute derrière? Si. On laisse le fils s'émanciper un petit peu et puis on le laisse faire.
Mais tu veux dire quoi par là?
Et ben, je pense que les choix, il y a une scission qui est faite entre les choix du fils,
père et du fils
et du père. C'est-à-dire que pour moi, quand c'est Sao et Cardozo, c'est les choix du fils et que c'était pas forcément les choix du père.
Quand
et
c'est Sao, c'était le choix ni du fils ni du père. Hein. C'était le choix d'un...
Écoute, moi je vois les choses comme ça, je vois que le fils a une vision.
Je te dis, c'était le choix d'un groupement d'agents.
Ça veut rien dire. C'est le choix d'un groupement d'agents, il y a un président qui est là, c'est ses millions, le mec qui dit oui, dis non, il est pas obligé de dire oui.
Non mais alors le problème pour répondre à ce que dit Ludo...
Laisse-moi finir sur la théorie que j'avance, c'est que le fils a une vision plus moderne du football et il voit ce qui se passe, il voit qu'à un moment donné, les résultats, en tout cas les entraîneurs portugais étaient à la mode. Aujourd'hui, quand tu vois qui Valdemar Quitta va aller choisir pour éventuellement remplacer Cardozo, si c'est Vaïd, bon là, t'as quand même une opposition entre du progressisme et conservateur.
Je pense que veut dire Ludo, il y a une part de vrai. Juste sur ce que tu dis, une chose, parce que moi j'ai eu des échanges notamment là-dessus avec certains dirigeants à Nantes. Quand Conseil s'en va, c'est vrai qu'effectivement Quitta était un peu tombé amoureux de l'entraîneur portugais, sachant, alors ce qui ne veut absolument rien dire, puisque Cardozo n'a pas été un ancien joueur comme l'a été Conseil Sans, et surtout Cardozo a une philosophie qui est du tout différente, une méthodologie qui est totalement différente de celle de Conseil Sans. Donc entraîneur portugais, ça ne veut rien dire.
Mais déjà ça, c'était Cardozo, il est là parce que c'était, il est pas là par c'est pas le premier choix de Valdemar Quitta.
Mais c'était pas le premier choix.
Je pense, et pour moi. Voilà, ce qui se passe à sortie.
Souvenez-vous, c'était Gourvenec.
C'est fait. Tu sens Cardozo, il a du caractère, il a un peu d'ego, ce garçon. C'est quand même quelqu'un. Tu sens, c'est un sanguin. Et la sortie de Valdemar Quitta, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour essayer de le faire péter les plombs.
Ouais, mais
et qu'il démissionne.
Vas-y, on va écouter
pour répondre à ce que tu disais. En fait, le problème à Nantes, qui est connu de tous, c'est que c'est pas le fils qui décide, C'est pas Valdé. Enfin, si, in fine, c'est pas le fils qui a les idées, c'est pas le père qui a les idées, mais c'est qu'à Nantes, dans l'organisation institutionnelle du club, il y a trop de monde qui gravite autour et qui susurre à l'oreille, bah, soit du fils, soit du père.
Je connais Valdemar Quita, je l'ai connu en sélection avec moi, je peux te jurer qu'il y a pas, il y a personne, et excepté son fils, qui peut imposer à Valdemar Quita de prendre une décision.
Il y a trop de gens qui jouent au conseiller, il écoute trop de monde.
Je peux te jurer que c'est pas,
par exemple, Contessao quand il arrive, c'est parce que, à ce moment-là de l'histoire du club, il est assez copain avec des anciens de chez Doyen. Et c'est comme ça qu'on sait ça arrive à Nantes. C'est pas, en fait, écouter quelqu'un qui a une bonne idée, je veux bien, pourquoi pas. C'est normal même de le faire. Mais le problème, c'est quand t'écoutes trop de personnes et qui ont tous des idées peut-être très bonnes, mais qui sont pas cohérentes les unes avec les autres.
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être le plus grand agent du monde ou le plus petit. C'est le président qui décide. Personne l'oblige à prendre sa décision.
T'as pas compris ce que j'ai dit? Ce que je dis, en fait, c'est pas ça, c'est que un club qui, comme Nantes, avec le budget qu'il a, je pense que pour qu'il réussisse, faut qu'il ait une vision sur les 3-4 ans. Et pour avoir une vision cohérente sur les 3-4 ans, eh ben, tu peux pas avoir une vision qui va être cohérente, pensée sur le moyen terme, s'il y a 36 000 personnes qui donnent des avis qui peuvent être divergents.
Et après, si c'est valide, effectivement, comme on en parle beaucoup.
Il y a aucune cohérence.
Alors, Vaïd, il va
On aura le temps d'en parler, on verra si c'est lui.
Il va faire les pompiers de service pendant 6 mois, ou 4 mois, 5 mois, et puis les joueurs, à un moment donné, ils vont décrocher parce que t'es dans un monde où aujourd'hui, le football a changé, et les méthodes ont changé, les jeunes, c'est plus les mêmes.
Allez, gars,
que la méthode de Vaïd, je suis pas sûr qu'elle
finit au Japon.
Un mot sur l'OL également. L'ambiance s'est plus détendue. Il y avait Bruno Genesio également en conférence de presse. On rappelle que l'OL reste sur 3 victoires de suite. Et voilà, il est plus serein, Bruno Genesio, écoutez-le.
Même si on a des très grands joueurs, ce sont des joueurs qui, lorsque les résultats ne sont pas là, peuvent être moins en confiance, douter parfois individuellement ou collectivement. Et lorsqu'on a des résultats, comme on vient de faire, ça donne beaucoup plus de sérénité dans l'ambiance générale, dans le contexte général, y compris à l'extérieur d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus simple pour travailler. Tout le monde est concerné, tout le monde est prêt lorsque je fais appel à eux. Sachant que Nantes va venir couteau entre les dents, puisque c'est une équipe qui est en difficulté, donc qui va venir avec, je pense aussi, beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité. Donc à nous d'être prêts à ce genre de match, et surtout d'avoir la tête uniquement à Nantes et non pas aux deux matchs d'après.
Demain 20h, il y a donc Lyon-Nantes. Tiens, c'est marrant, il y a Kevin King qui nous dit sur l'application Direct Studio, ces deux clubs sont comparables. Je pense qu'il veut parler notamment des deux présidents qui sont très présents justement dans la gestion
du
club.
Non, c'est pas comparable parce que Lyon est très bien structuré.
Ouais, et puis il délègue Jean-Michel Aulas.
Il est très bien organisé dans la manière de déléguer. Non.
Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est qu'il n'y a pas de directeur sportif à Nantes. C'est Franck Kita qui chapeaute tout en tant que directeur général. Et c'est vrai que vu la relation entre le board, enfin la tête de l'organigramme et l'entraîneur, il serait peut-être intéressant d'avoir quelqu'un, un entremetteur qui puisse faire le lien entre les deux.
Juste un dernier mot sur le match. Nantes, c'est un peu la victime expiatoire parfaite pour Lyon, quoi. C'est une équipe qui refuse pas d'avoir le ballon, c'est une équipe qui refuse pas de faire du jeu. Lyon, bon, ils risquent de se régaler, quoi.
Dimanche 17h, il y a un derby entre Montpellier et Nîmes. Alors, pas mal de provocations hein, ces dernières semaines, ces derniers mois même, entre les supporters des deux équipes. Alors, ce sont les grandes retrouvailles pour ces deux clubs dans l'élite. Je crois que c'était pas arrivé depuis le début des années 90, 92, 93, leur dernière confrontation en Ligue 1. Et Michel Derzakarian, justement, il a été interrogé sur cette tension qu'il y a entre les supporters. Il espère avoir de l'ambiance dimanche à la Mosson, mais il espère que ce sera une bonne ambiance.
Il y a des enfants qui sont là, il y a des familles qui sont là. Il faut que ça reste mesuré. On peut se chambrer, on peut dire des conneries, même des gros mots, il va y en avoir. Et à un moment donné, il faut pas qu'on passe au-delà de ça, quoi. Des comptes, il y en aura partout. Hein. Il faut qu'il y en ait un minimum.
Tiens, on va accueillir Adrien, supporter de Montpellier, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Adrien.
Salut Astar.
Salut Adrien. Bon Adrien, est-ce que t'es chaud pour le derby là de dimanche là?
Eh oui, on est bouillant ici. On est bouillant. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on attend ça, là, le petit derby, là.
C'est vrai que la dernière confrontation, c'était en 2009, je crois, c'est ça?
C'est ça, 2009. C'est l'année, en plus, du coup, où on monte. Et du coup, ça fait 10 ans qu'on est en Ligue 1, attend. C'était avec Roland. Et en plus, ouais, on fait un partout et on perd 2-1 le deuxième match au Costières. Voilà, c'était assez chaud, en plus, déjà. Et du coup, pendant 10 ans, voilà, ça c'est un peu là, c'est vrai, l'animosité entre Montpellier et Nîmes depuis qu'ils sont montés, enfin depuis la fin de saison dernière, ça commence un peu à monter, voilà. Bon, sur les réseaux sociaux, ça envoie un peu. Bon, voilà, moi je pense que c'est de bonne guerre aussi, mais bon, c'est bien.
Tu vas aller au match, toi, Adrien, ou pas?
Ah, je suis abonné, ouais, je serai là dimanche. Je serai au stade, voilà.
Il y a quoi de préparé choses positives, parce que j'espère qu'il n'y a pas de trucs à la con qui sont préparés quand même. Mais...
Bah, c'est que tu entends quoi par truc à la con?
Bah, des fights ou des conneries comme ça,
c'est ça que je veux dire.
Bah, c'est vrai que là, j'ai vu un peu les articles et tout. C'est bon, voilà, il y aura pas mal d'encadrement sur les supporters nîmois. Donc bon, voilà, il y aura la police, tout ça. Bon, voilà, ça a l'air d'être sérieux, mais il y aura des Nîmois dissimulés dans le stade. Hein. Donc, si les Nîmois sont dispersés dans le stade, voilà, il y en aura quelques-uns.
Est-ce que vous allez ressortir leur bâche?
Ben alors, on va pas trop parler de cette bâche, parce que la bâche, ouais, on sait que c'est eux qui l'ont, apparemment. Hein, donc, y a, voilà, ça parle.
Mais vous l'en avez volé une aussi?
Bon, après, moi, je suis pas, voilà, moi, c'est entre la butte, la paillade et voilà, je crois les gladiateurs, là. Donc, bon. Moi, je suis, j'ai juste suivi ça. C'est vrai que ça, c'est embêtant parce que depuis qu'on a plus cette bâche, voilà, ben, la butte paillade refuse un peu de chanter, d'applaudir. Donc, voilà, c'est sûr que ça a mis un petit peu d'animosité, mais bon, voilà, c'est
tu regardes le monde du supporterisme, mais bon, la bâche, c'est l'affront ultime.
En tout cas, ils ne peuvent pas la ressortir au stade. Après, s'ils la ressortent, c'est sûr que bon, voilà, c'est de toute façon ils seront fouillés, donc voilà, il y aura pas. Moi de toute façon, je pense que bon, ça c'est encadré, qu'il y aura quand même une bonne ambiance et bon voilà après. Ouais.
Faut pas qu'il y ait des débordements, j'espère que ça sera chaud.
Parce que
la bonne chaleur.
Pas que ça soit chaud, qu'il y ait pas qu'il y ait de violence, pas qu'il y ait de fight ou quoi, mais que ça soit chaud et qu'il y ait de l'animosité, mais dans les tribunes, dans les champs, qu'il y ait de la tension, parce que c'est ça qui fait que qui rend le championnat intéressant en fin de compte.
Ok, merci Adrien de nous avoir appelé en tout cas, et puis bon derby à toi du coup dimanche.
Ouais. Ben ouais, merci à vous. Hein.
Salut,
bon,
merci.
Bon, voilà, ça va être chaud, mais bon, voilà, petite victoire de la paillade.
Voilà, bah écoute, on verra ça. On verra ça dimanche 17h. Salut Adrien, bonne soirée à toi. Ciao. On va écouter, tiens, Mourinho, sur Paul Pogba, parce que demain, 18h30, il y a le choc de la 7e journée de Première Ligue. Chelsea face à Liverpool. Alors, nouvelle embrouille entre José Mourinho et Paul Pogba. Mourinho qui a expliqué que Pogba n'aurait plus le brassard, lui qui était vice-capitaine. Et aujourd'hui, le Special One était en conf de presse. Elan Armin, couche, écoutez-le.
No, he's a player like the others. C'est un joueur comme les autres. No player is bigger. Aucun joueur n'est plus grand que le club. And if I'm happy with his work, he plays. Travail, il joue. If I'm not happy with his work, si je ne suis pas content, il ne joue pas. I'm happy with his work. Je suis heureux de son travail cette semaine, vraiment heureux. Il s'est très bien entraîné. The team needs good players. He is a good L'équipe player. A besoin de bons joueurs, des joueurs avec de la personnalité. Personality to play. Il a tout ça et il joue demain. And he plays
tomorrow. Voilà, il jouera donc demain, Paul Pogba, c'est ce qu'explique José Mourinho. En gros, lui met une caresse et puis lui met une tarte en même temps.
Ouais, mais ça me fait marrer quand c'est lui qui dit ça, qui dit qu'il faut respecter le club, etc. Évidemment que c'est le discours qui est logique, mais est-ce que lui a toujours respecté Manchester United? Hein, quand ils sont sortis, par exemple l'année dernière en Champions League, vous vous rappelez pas de son discours surréaliste? Il dit Manchester United c'est un club qui est habitué à perdre. Lui aussi il a manqué de respect au club parfois. Donc le problème avec Mourinho c'est que c'est une sorte de double standard en permanence. Donc je sais pas, si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, fais-le toi-même aussi de manière impeccable.
Tiens, je vous donne quelques petites infos également. Alors sachez que c'est officiel, Silvio Berlusconi a racheté un club de série C, Monza, pour 3 millions d'euros. Tiens, une petite info marrante également, le maillot de la finale de la Coupe du Monde 98 de Zidane va être mis aux enchères. La vente aura lieu le 13 octobre prochain à l'hôtel Drouot à Paris. Jean-Marc Lenné, expert en objets sportifs en France et organisateur de la vente, a expliqué sur France Bleu qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour retrouver le maillot puisque Zizou ne savait pas ce qu'il en avait fait. Alors, savoir qu'il y a trois maillots, celui de la première période, donc celui qu'il a retrouvé qui est estimé entre 20 000 et 40 000 euros. Le maillot de la seconde période n'a jamais été retrouvé, voilà. Et celui de la troisième période, il est estimé à 6 000 euros. Voilà, c'est assez rigolo. Donc le maillot va être mis aux enchères. Amateur de foot et de maillots, si vous avez petit PEL de côté, ouais, c'est le moment d'aller le péter. Hein. Et puis autre petite info également, sachez que la CAF a décidé le championnat d'Afrique des Nations 2022 se déroulera en Algérie. Une victoire pour le football algérien qui n'a pas organisé de compétition senior depuis la CAN 90. Se félicite la Fédé algérienne.
C'est très bien ça.
Ouais. Bah, ça faisait longtemps que l'Algérie n'organisait pas
des compétitions
comme celle-ci. David Lortolari sera là dans quelques secondes. On va revenir sur un résultat surprenant en Bundesliga. Affiche de la 6e journée de Bully qui a eu lieu ce soir. Et le Bayern a perdu 2-0 face au Hertha. A tout de suite pour parler des saucisses.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardi, David Lortolari nous a rejoint. Bonsoir David.
Allô Freunde, salut à tous.
Ça va toi?
Ils m'ont fatigué là ce soir.
T'es vénère là.
J'ai pris des notes parce qu'il faut que je flingue là. ils m'ont énervé.
Alors si David va sortir les guns, c'est parce que le Bayern ce soir a perdu 2-0 face au Hertha Berlin, première affiche de la 6e journée de Bundesliga. Il y avait 3 points d'écart au coup d'envoi, c'est un résultat qui est important.
Exactement, 3 points d'écart. Le Bayern avait piétiné déjà en milieu de semaine 1-1 partout dans le derby contre Augsbourg, le derby de Bavière. Ils avaient largement dominé mais ils s'étaient fait reprendre à la fin. Donc déjà un début de semaine, un milieu de semaine compliqué pour le Bayern. Et alors ce soir, c'est un événement quand même, messieurs, parce que c'est la première défaite pendant l'Oktoberfest.
Ah, la fête de
depuis
la bière.
Depuis 8 ans. Ça fait 8 ans, 28 matchs que le Bayern n'avait pas perdu. C'était un 0-2 contre Dortmund en Bundesliga pendant l'Oktoberfest. Et puis aussi, surtout, c'est peut-être ce qui nous intéresse ce soir, la première défaite de la saison. Pour le Bayern, Kovac qui perd en plus chez lui parce que son Heimat, comme on dit en Allemagne, sa ville de naissance en plus, c'est Berlin. Il a joué d'ailleurs entre 2003 et 2006 aux côtés de l'entraîneur actuel de Hertha, qui est Pál Dárdai, le Hongrois. Donc c'était un peu une affaire personnelle, entre guillemets, et il se faisait une joie de gagner à Berlin ce soir, Kovac. Manque de peau, c'est une caricature ce soir le match. Grosse domination du Bayern, 24 tirs, 0 but, défaite 2-0. Le Hertha a fait du Hertha comme il a su faire la saison dernière, c'est-à-dire se recroqueviller et contrer. But sur pénalty d'Ibisevic, l'un des anciens de cette équipe. Et puis Andrei Duda, alors merci Nico de m'avoir suggéré lundi dernier dans l'after de faire un cador avec Duda.
Personne ne le connaît, le mec est meilleur buteur de Bundesliga. Donc
5 buts depuis le début de la saison pour Duda, qui fait partie des jeunes de cette équipe. C'est bien parce que le Hertha a modifié sa façon de penser cette année. Il a injecté beaucoup de jeunes dans cette équipe. Et il y a un jeu offensif qu'on a peut-être un peu moins vu ce soir, mais qui depuis le début de la saison paye, parce que figurez-vous que le Hertha ce soir est à égalité de points avec le Bayern. Une petite différence de but un peu moins bonne, mais ils sont à égalité avec 13 points.
Alors ils peuvent être rattrapés par Gladbach au classement, et Dortmund et le Werder peuvent même passer devant. Alors Dortmund qui jouera d'ailleurs face au Bayer Leverkusen, ce sera demain à 18h30. Est-ce que la Bundesliga est relancée là du coup?
Là, pour, en tout cas, pour ce qui est de...
Parce que toi, en début de saison, tu nous disais, et c'est vrai que, bon, on avait tous un peu le sentiment.
Ça.
Ouais, mon gars. Mais non, on a tous ce sentiment, c'est vrai, c'est que c'est joué d'avance quasiment en Allemagne.
Ben, regarde la saison dernière, quand Heynckes arrive et Ancelotti s'en va, d'ailleurs, c'était pile il y a un an, d'ailleurs, il faut s'en souvenir, mauvais souvenir pour le Bayern, début octobre, enfin, de mémoire à peu près à ce moment-là. Et
ben,
Ancelotti
s'en va. Après le match contre Paris, ouais.
Voilà, juste après le 3-0 contre Paris, enfin 0-3. Et à l'époque, le Dortmund est devant le Bayern, et derrière, on sait que le Bayern a déroulé avec Heynckes et a fini avec X points d'avance. Donc non, la surprise effectivement, c'est qu'on en parlait juste avant la reprise d'antenne avec Ludo aussi, c'est que le Werder peut passer devant s'il gagne effectivement ce week-end. Dortmund peut passer devant aussi. Si on avait un Bayern troisième au début du mois d'octobre, oui, ce serait quand même une sensation, parce que rassurez-vous, les médias en Allemagne sont comme ici chez nous en France. Dès que le Bayern est un peu trop dominateur, dès que le Bayern n'a pas de suspense chez lui, ça commence à dire
qu'est-ce
que c'est un problème.
Qu'est-ce qui cloche dans ce Bayern?
Est-ce que quelque chose cloche vraiment d'ailleurs? Ça fait qu'une défaite finalement. Mais
aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé et ce qui est frustrant quand on est, ne serait-ce que spectateur, sans être forcément un amateur d'un club ou de l'autre, mais en étant spectateur, c'est cette stérilité, quoi. C'est, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de rythme. Pourtant, la grosse équipe ce soir, il avait fait 6 changements, Kovac, mais il avait quand même mis vraiment l'équipe titulaire, pour ainsi dire. Et ni Ribéry, ni Lewandowski, ni qui que ce soit d'autre n'a pu apporter le petit coup de rein qui fait la différence, n'est-ce pas? Et Renato Sanchez, qui était sur le terrain ce soir aussi, est rebasculé du mauvais côté, c'est-à-dire Renato brouillon, pas forcément efficace, David, qui perd aussi des duels.
C'est Rekic là que je vois derrière.
C'est Rekic qui est dans la défense du Hertha.
Ils n'ont pas réussi à foutre un but avec Rekic derrière.
Ouais, sans déconner, l'ancien Marseillais.
Oui, il y a quelques anciens. On parle souvent de Ibisevic et Salomon Kalou devant. Kalou d'ailleurs qui a été bon ce soir encore. Mais oui, il y a quelques anciens. Rekic. Il y a un bon mix en ce début de saison entre tous ces jeunes qui arrivent. Et d'ailleurs, si je voulais citer tous, peut-être que même la moitié d'entre eux.
Il est bon Rekic.
Oui, il tient derrière. Alors après, c'est un peu surprenant de le voir si bon, parce qu'en Bundesliga, ça bouge quand même beaucoup. Les défenses sont pas forcément très stables et très très ancrées. Donc pour lui, ça pourrait être un problème, mais ça se passe bien pour lui, ouais, depuis qu'il est à Berlin.
Ouais, ok.
Alors donc demain, il y a ce match entre le Bayern et Dortmund à 18h30. Alors Dortmund qui va affronter Monaco mercredi soir à 21h en Ligue des Champions. Ce sera à suivre sur RMC Sport. Dortmund qui reste sur une victoire 7-0, ouais, face à Nuremberg. Monaco ce soir a perdu 2-0 à Saint-Etienne. Franchement, est-ce que Monaco a vraiment une chance face à Dortmund, tu penses, toi?
Alors, c'était des jeunes. Cette victoire 7-0, c'était des jeunes, c'était un festival offensif, c'était pas forcément l'équipe qu'on imagine un 11 titulaire en Coupe d'Europe.
T'es en train de me dire que c'est l'équipe B de Dortmund qui met 7-0 à Nuremberg?
C'est ça.
Ah, d'accord. Toi,
est-ce que Nuremberg est très si faible que ça, déjà, la première question?
Non, c'est un promu qui a déjà des points. C'est pas ridicule du tout.
C'est une grosse perf, donc je me dis.
Ouais, ils ont 5 points en 5 matchs. C'est pas ridicule.
C'est, voilà, c'est une perf. Non, alors tu vas avoir logiquement contre Monaco, tu vas avoir les Witzel, tu vas avoir les Delany, les Daoud au milieu de terrain notamment. Et on peut ça. Enfin, moi je serais par ailleurs, je serais prudent parce qu'on va pas du tout avoir le même Dortmund en milieu de semaine prochaine qu'on a eu en milieu de semaine là et celui qu'on risque de voir ce week-end parce que Favre a quand même un gros effectif, il peut faire tourner. Ça sera pas du tout le même visage que celui qu'on a vu dans le 7-0. Donc c'est pas forcément rassurant
mais
pour Monaco.
Tu vois, ça sera pas si la même je te demandais si le Bayern ça se passait bien, c'est parce que le miroir avec Dortmund, il est assez frappant. Quand on voit Dortmund, on sent directement l'influence qu'a eu Lucien Favre depuis son arrivée.
C'est sûr.
Quand on voit le Bayern jouer, je trouve que ça reste encore un petit peu brouillon en termes de l'identité qui se dégage de cette équipe-là quand elle joue.
C'est une critique de la part des suiveurs du Bayern, notamment sur les réseaux sociaux et particulièrement en France. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas...
De personnalité.
Pour l'instant, il n'y a pas de signature encore.
Voilà, ouais, exactement.
Mais pour l'instant, ce qui parle quand même en faveur
David,
du...
c'est tellement dur de reprendre après Jupp Heynckes.
C'est ça.
C'est lui le Bayern. Enfin, il a tout gagné là-bas. Il impose une patte. Quand tu passes derrière lui, c'est forcément que difficile. Parce que soit tu vas dans ses pas et tu fais du Jupp Heynckes, soit t'essayes d'imposer ta patte. Et forcément, bah, il y a des petits réglages.
Avec le vestiaire, alors, qui est un vestiaire qui est parfois peut-être un peu difficile aussi, il faut le dire.
Mais pour l'instant, il a réussi tous ces changements.
Mais ça se passe bien pour l'instant. C'est un épiphénomène.
On va te poser la question autrement.
Du jeu, pas
mais justement, c'est quoi? On attend quoi de Kovac? Alors, c'est quoi la patte Kovac? C'était quoi la patte Kovac?
Voilà.
La patte Kovac, c'est...
Merci, hein, beaucoup de valider mes questions, Jonathan Magardé.
Je te félicite, mon bichon.
Ça va, je te jure.
Vous avez posé la même, en fait, tous les deux, mais différemment.
C'est passé un truc.
Non, la patte Kovac, c'est ce qu'on a vu, parce que finalement, il y a une carrière d'entraîneur très courte, c'est ce qu'on a vu, sa réussite avec Francfort. C'est-à-dire, ça va paraître un discours un peu creux, mais arriver à motiver une troupe derrière un objectif. Avec Francfort, c'était accéder à un strapontin européen. Avec le Bayern,
okay,
ça
mais
va être...
tactiquement, comment, qu'est-ce que c'est?
Tactiquement, c'est là où moi, je suis pas encore capable de te dire, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. C'est un entraîneur qui se met dans les pas d'autres entraîneurs précédemment. Sa grande qualité, c'est la motivation des troupes et du groupe. D'arriver à garder sur le grill tous les joueurs qu'il peut y avoir, au Bayern.
En gros, tu me dis que c'est un géo, en fait.
Non, oui, non mais on va voir après s'il va y avoir des trouvailles tactiques. Pour l'instant, il n'en est rien. Il fait avec les joueurs qu'il a. On a toujours un avant-centre, on a toujours les deux ailiers, on a souvent un système à deux ou à trois en milieu défensif.
Beaucoup de possession et
beaucoup de possession,
beaucoup de passes, beaucoup. Mais c'est parfois tu t'endors un peu quand tu les vois jouer
ce soir
année.
Notamment. Mais la différence quand même par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est un peu plus de variété dans le jeu court, le jeu long, des choses comme ça. Pour l'instant, ça a fonctionné. Il a un bon bilan. On va voir lorsque la route va s'élever en Coupe d'Europe, évidemment, parce que c'est là-dessus qu'il sera jugé comme sur les autres.
Toi, tu penses que Monaco a une chance ou pas, Ludo, face à Dortmund?
On parlait de déclic tout à l'heure. Si t'as quelques retours de joueurs importants, et c'est justement dans ces moments-là que tu peux te sublimer. Et c'est regarde Lyon. Lyon, ils étaient au fond du seau 3 jours avant
City.
On disait
tous
qu'ils allaient en prendre une volée.
C'est vrai.
Au final, tu fais un match titanesque là-bas. Ouais. Et hop, la confiance, elle change de côté. Regarde depuis.
Ils ont peur là-bas?
Dortmund?
Ouais.
Non, parce que c'est en train de se mettre vraiment en place. Le temps joue en faveur de Lucien Favre. On l'avait vu, il avait construit des projets vraiment avec une vraie identité, une vraie signature.
Ah bah, quand tu l'as vu, même pendant les matchs à Nico,
Berlin.
Ça se passe bien pour lui là-bas.
Ça se passe bien pour lui, évidemment, parce que il a le crédit auprès des supporters, il a le crédit auprès des joueurs.
Et puis il a le crédit à la banque.
Non, mais même les matchs amicaux que j'avais pu voir de Dortmund cet été,
c'était déjà
directement qui avait un entraîneur qui apportait sa patte, qui donnait une personnalité à l'équipe. Donc c'est une des équipes à voir jouer cette saison.
Il passe aussi après deux échecs d'entraîneurs où ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Moi, j'ai connu beaucoup l'ancien entraîneur du Maccabi Tel Aviv, notamment. Quand il a signé là-bas, j'étais vraiment surpris. Ça correspondait pas du tout à l'identité d'Ortmund.
Là, ils veulent se donner 2-3 ans pour avancer.
Ça correspond totalement.
Ouais. Alors, David, un mot également sur un joueur qui évolue en Première Ligue. Demain, à 16h, il y a Arsenal Watford, match à vivre sur...
Ça,
parlons-en, parce que la polémique Ozil avec les dirigeants de la Fédé allemande, a repris ces derniers jours. Alors, dis-nous ça. J'ai vu que le président de la Fédé allemande était furax, notamment cet après-midi, et Yogi Löw également, d'ailleurs.
Ouais, Reinhard Grindel, le président de la Fédé, s'est exprimé sur la télévision publique. Donc visible évidemment par un maximum de personnes. Il y a toujours ce malaise Özil parce que il n'y a pas de communication possible c'est le joueur qui a choisi cette, ce mode de communication, de non-communication justement en ce moment. Ouais. Pas de communication possible avec le manager de l'équipe nationale Birov et le sélectionneur. Özil ne veut pas entendre parler ni de SMS, ni de coup de fil, ni de fax, ni de télégramme, ni de pigeon voyageur.
Et c'est vrai cette histoire qui Joachim Löw est venu au centre d'entraînement et qu'il s'est fait recaler
Exactement. Il mais est venu avec Birov.
Mais c'est pas Unai Emery qui l'a recalé.
Non,
c'est Özil. C'est Özil qui a pas souhaité rencontrer les dirigeants de la Fédé allemande. C'est pour ça d'ailleurs que Reinhardt était furieux. D'ailleurs.
Voilà, en fait le duo a pu visiter, visiter les installations. Ils sont venus sur les terrains d'entraînement, mais ils n'ont pas pu accéder, ils n'ont pas pu voir l'entraînement justement. Donc il y a toujours ce malaise. Et le président Grindel, effectivement, cet après-midi, a remis un peu d'huile sur le feu. Alors que par ailleurs, Löw, par exemple, le sélectionneur, dit Özil, ok, je respecte. Actuellement, il veut pas communiquer. On va laisser passer un peu de temps et on va voir si les choses peuvent s'apaiser.
Enfin, il a quand même dit, il aurait peut-être pu me prévenir avant de balancer son communiqué et dire qu'il n'y en aurait plus. Tu vois.
Non, mais c'est quoi cette manière de fonctionner?
C'est
un enfant, Özil. Tu viens, ils viennent et puis tu prends tes responsabilités.
Tu l'as
bonjour
voix,
messieurs, voilà. Merci messieurs, non messieurs. Oui. Et puis terminé. Et
t'es d'accord avec les dirigeants du coup?
Ben, je suis pas d'accord avec les dirigeants, mais à un moment donné, Özil, il a quel âge
Il arrive à 30 là bientôt.
Ben, sois grand, prends tes responsabilités.
Et s'il veut plus y aller, il peut leur dire.
Et puis il rentre. Messieurs, merci pour tout, ça a été un honneur de travailler avec vous, mais j'ai plus envie de continuer, terminer, ne me relancez pas, c'est définitif, point barre. Mais au moins, tu te comportes comme un homme, tu reçois les gens, tu te caches pas, tu te retranches pas derrière le centre d'entraînement alors que les gens ils sont devant la porte.
Mais c'est un peu un grand enfant, Özil.
C'est sans doute aussi...
C'est un très mature.
Sans doute aussi l'environnement, les influences qu'il peut y avoir autour de lui, mais c'est vrai que ça met un peu mal à l'aise. C'est bien qu'on fasse le point là-dessus ce soir, parce que même si ça fait pas la une des journaux en Allemagne, faut pas non plus exagérer, il y a d'autres chats à fouetter, notamment avec l'équipe nationale, ça reste un serpent de mer qui ressort de temps en temps, l'Arlésienne, et cette affaire-là n'a que trop duré, à mon avis.
Surtout que vous pouvez faire, l'Allemagne peut faire sans Özil.
Ah ben après, ça...
Avec le réservoir de joueurs qui est disponible...
C'est dommage quand même.
C'est dommage
de refermer un chapitre de cette façon, parce qu'en fait on le referme pas quoi.
Merci beaucoup David.
Avec plaisir.
Merci David.
Événement ce soir, défaite du Bayern.
Voilà, défaite 2-0 face au Hertha Berlin. On vous rappelle que vous pouvez continuer de gagner des jeux FIFA 19 en envoyant FIFA au 7-32-16. Voilà, il y a un jeu à gagner toutes les 5 minutes. Il y avait un jeu à gagner toutes les 5 minutes dans l'after ce soir. Il reste encore quelques secondes.
Et... Cette semaine, restez
connecté. Ah oui, vas-y, fais ton petit teasing. Alors, tu sais quoi? Moi qui te taille tout le temps là-dessus et qui me fous éperdument
de
MMA.
Ne relance pas,
j'ai
Nico.
Vu un très bon sujet fait par Charles Chevalier, notamment de RMC Sport 4, avec Pauline Pioche aussi. Et franchement, tu sais quoi? Rien qu'en voyant le sujet.
Arrête, ça fait 4 jours qu'il parle que de MMA.
Attends,
partout, sur tous
Khabib,
les postes.
Non, mais Khabib McGregor, ils ne peuvent pas se blesser.
Mais ça serait trop long pour expliquer. Mais alors, justement, restez connectés sur le compte Twitter de RMC.
Ce sera dans la nuit du 6 au 7.
Ouais, ça sera dans la nuit du 6 au 7. On a enregistré, je crois, 2h et demie de preview, mais ça va être clippé. On va aborder tous les thèmes du combat. Et puis, rendez-vous samedi sur RMC Sport 4, de 22h30 jusqu'à 6h du matin.
Merci Jonathan McCarty, merci Ludovico Bragnac, merci encore David Lorsolari, merci à toutes et à tous à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission.
Merci Nicolas.
Bisous, bonne soirée
revoir,
et à
Nicolas.
Demain. Ciao ciao, salut.
Bonne nuit Nicolas.
Bonne nuit.
Tout le foot avec maxouti.com, le site français pour la maison, le bricolage et l'outillage professionnel. Maxouti.com.
RMC Football Show, l'After Foot.